Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, il pèse en moyenne 1400 grammes et composé de près de 100 milliards de neurones, chacun relié par 1000 voire 10 000 connexions. Vous l'avez compris, Éclairage s'intéresse aujourd'hui au cerveau et plus particulièrement à la mémoire et à ses troubles. Les chercheurs travaillent depuis de nombreuses années sur cet organe et pourtant ils sont loin d'avoir percé tous ces mystères. Comment expliquer par exemple qu'une personne amnésique n'ait pratiquement plus de souvenirs alors qu'il sait encore écrire et parler ? Ou comment expliquer que certaines personnes écoutant un morceau de musique puissent le rejouer sans avoir jamais pratiqué d'un instrument auparavant ? De même pour les virtuoses des mathématiques, capables en 10 secondes de vous donner la racine carrée de 18 795. Ou alors comment expliquer que les malades atteints de la maladie d'Alzheimer se mettent dans certaines phases à revivre des souvenirs d'un moment marquant de leur vie. Les émotions ont-elles un rôle à jouer dans l'imprégnation de souvenirs dans notre cerveau? Et si oui, comment mesurer ces émotions? Peut-on éduquer, voire rééduquer la mémoire? C'est les questions que nous allons pouvoir évoquer avec Francis Eustache, qui vient de recevoir avec sa confrère Béatrice Desgranges le prix de la Fondation Énergie 2007 de l'Institut de France, un prix qui récompense leurs travaux sur les pathologies de la mémoire. Francis Eustache, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au cœur de l'Institut de France, à Canal Academy. Alors, vous êtes docteur en psychologie, directeur d'études à l'École pratique des hautes études, le PHE, depuis 2001. Également, depuis 2002, directeur de l'unité INSERM, qui est donc en corrélation avec le PHE, l'École pratique des hautes études, et puis l'Université de Caen. Vous travaillez avec Béatrice Desgranges, également docteur en psychologie et chargée de recherche à l'INSERM sur les bases cérébrales de la mémoire et de ses troubles. Alors, vous êtes deux équipes avec Béatrice Desgranges qui, elle, travaille sur le vieillissement et la démence via l'étude de patients, et votre équipe qui travaille sur la physiopathologie et la thérapie cognitive dans l'alcoolisme chronique et la rééducation de la mémoire. C'est cela ?
Oui, en fait, notre unité est maintenant composée de deux équipes. Pendant plusieurs années, nous n'avions qu'une équipe au sein de l'unité. Bon, cette structure en deux équipes permet d'organiser un petit peu les choses, mais nous continuons de travailler vraiment ensemble. Et une des caractéristiques de l'unité, qui comprend maintenant une soixantaine de personnes, c'est que les gens travaillent ensemble. Il y a une répartition par projet, mais disons les grandes méthodologies et les grandes approches théoriques sont partagées par l'ensemble des membres de l'unité.
Alors, nous allons bien sûr parler de vos travaux et de ces pathologies de la mémoire qui nous intéressent bien naturellement. Auparavant, peut-être pourrait-on parler des mémoires, puisqu'on parle de la mémoire. En fait, il y en a plusieurs, que ce soit la mémoire sensorielle, la mémoire à court terme, à long terme, sémantique, épisodique. Francis Eustache, est-ce que vous pourriez nous dire à quoi correspondent ces différentes mémoires ?
Oui, je pense que c'est bien de parler de la mémoire. Parce que le but tout de même, c'est que la mémoire fonctionne dans son intégralité, mais cette mémoire, on peut également la décomposer, la décliner en un certain nombre de mémoires, cette fois-ci au pluriel. Alors, bon, vous imaginez que tous les chercheurs, tous les spécialistes de la mémoire ne sont pas d'accord sur le nombre, sur ces différentes formes de mémoire, sur leur définition. Bon, nous, dans notre unité, nous sommes assez fidèles à un grand chercheur contemporain qui s'appelle Endel Tölving, qui a proposé une certaine représentation de la mémoire sous la forme de 5 grands systèmes de mémoire. Et disons que c'est une conception qui est maintenant retenue par beaucoup de chercheurs, notamment en neuropsychologie, c'est-à-dire dans notre discipline, qui s'intéresse aux relations entre le cerveau et le comportement, et qui s'intéresse beaucoup aux pathologies de la mémoire. Alors, je peux définir, si vous voulez, très rapidement ces 5 systèmes de mémoire en partant, disons, de la plus simple, encore que, vous allez voir que c'est même la plus simple est relativement complexe, en allant jusqu'aux systèmes les plus élaborés. Donc, la plus simple, c'est la mémoire procédurale. On peut la définir comme la mémoire des habitudes, des
savoir-faire.
Voilà. Donc, savoir-faire du vélo, savoir jouer d'un instrument de musique. Donc, vous voyez que les choses sont pas forcément si simples que je le disais il y a quelques secondes. Bah, ce sont des choses que l'on a apprises et qui se sont automatisées.
Des réflexes ou alors c'est encore autre chose,
réflexes, le réflexe? Non, des réflexes, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans l'organisme, le réflexe. C'est pas quelque chose qu'on va apprendre. Alors que là, ce sont des procédures relativement complexes et on va d'abord avoir des difficultés pour apprendre. Parce qu'apprendre à faire du vélo, c'est pas facile. Apprendre à faire du ski, c'est encore peut-être plus difficile.
Apprendre à conduire.
Apprendre à conduire, c'est difficile. Il faut prendre des cours pour apprendre à conduire. Et en fait, la mémoire procédurale, elle est vraiment en place quand l'automatisme est acquis. Donc c'est à ce moment-là qu'elle va se révéler. Mais en amont, cette mémoire procédurale va nécessiter l'aide, on pourrait dire en quelque sorte, d'autres systèmes à la fois de mémoire et puis d'autres systèmes cognitifs tout court. Donc pour apprendre à faire quelque chose, eh bien on a besoin de la mémoire de travail dont je vais vous dire tout de suite quelques mots, on a besoin de son intelligence, on a besoin de capacités perceptives, de capacités motrices, tout dépend un petit peu de l'apprentissage, vous voyez. Et donc la mémoire procédurale, elle va s'installer, on pourrait dire en quelque sorte, après de longs moments de labeur en quelque sorte.
Donc en fait, la mémoire procédurale, par exemple à la naissance, on n'en a pas et on se la construit au fur et à mesure.
Ah, à la naissance, c'est une question difficile que vous posez là. Le bébé, il a un potentiel considérable, mais c'est vrai que les mémoires en général bien, vont s'exprimer, vont se révéler au fur et à mesure du développement de ce sujet en interaction avec son environnement.
Elle est en sommeil en quelque sorte.
Oui, elle est en sommeil. Il y a beaucoup de choses qui sont en sommeil chez le bébé. Pourtant, le bébé est très éveillé. Mais par contre, il y a des âges qu'il faut attendre. Et c'est vrai que ces différentes mémoires que je vais décrire là vont se révéler à différents moments de l'évolution. Et c'est d'ailleurs une question intéressante parce que une des façons de différencier ces systèmes de mémoire, c'est de les situer dans une ligne à la fois phylogénétique et ontogénétique. Et c'est vrai que les systèmes de mémoire de plus haut niveau bien se mettent en place relativement tardivement dans l'évolution.
Autre type de mémoire, alors, mémoire déclarative par exemple.
Alors la mémoire déclarative, on va la laisser un petit peu en suspens pour l'instant. Et je vais d'abord vous parler des mémoires perceptives, parce que si on veut parler de cette hiérarchie dans les fonctions mnésiques, donc il y a d'abord la mémoire procédurale et puis ensuite ces systèmes de mémoire perceptive qu'on appelle également le système de représentation perceptive. Alors, comment ça marche cette mémoire perceptive? Ça paraît relativement simple. C'est le fait, disons, d'être en contact avec un objet dans un sens très 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 large, ça peut être un visage, ça peut être une scène, un paysage. Là, d'ici, on a une très belle vue sur la Seine. Le fait d'être en contact perceptif avec cette scène fait que on va reconnaître beaucoup plus facilement cette scène ultérieurement, même si cette scène ou cet objet sont présentés dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'elle ne l'était dans un premier temps. Par exemple, des conditions dégradées, il pourrait se mettre à pleuvoir, je pourrais revoir cet objet ou cette scène sur un dessin qui a été fait dans de mauvaises conditions, etc. Eh bien, mon système cognitif et mon système de représentation perceptive fait que je vais identifier beaucoup plus facilement cette scène la deuxième fois que la première fois. Et une des caractéristiques de ces mémoires perceptives, c'est qu'elles peuvent fonctionner à l'insu de l'individu. C'est-à-dire que elles vont favoriser le traitement cognitif et le traitement perceptif d'un certain nombre d'objets qui nous entourent, sans même que nous ayons conscience de faire appel à notre mémoire. Donc, le fait qu'on n'en ait pas conscience, ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas important dans notre fonctionnement journalier, parce que le fait que notre système cognitif comme ça puisse s'appuyer sur des mémoires relativement automatiques, eh bien, va laisser en quelque sorte le champ de la conscience relativement libre et va permettre donc au sujet, tout en gérant, on pourrait dire, ses activités perceptives, ses tâches perceptives, eh bien de se livrer à des activités de niveau beaucoup plus complexe.
Donc ça veut dire que ça fait appel au sens, tout simplement.
Oui, oui.
Et quelqu'un, par exemple, qui serait aveugle va, par exemple, travailler plutôt sur l'odorat, l'ouïe.
Tout à fait, ouais.
Donc, il aura une mémoire sensorielle.
Oui, ces systèmes de représentation perceptive s'appuient effectivement sur les sens. Donc, on a plus étudié dans l'espèce humaine les phénomènes visuels parce que c'est une modalité, disons, qui est privilégiée, mais ça, on a également étudié l'audition et d'autres sens, tout à fait.
Alors, troisième mémoire,
on pourrait parler tout de suite de la mémoire de travail parce qu'elle a un statut un peu particulier. Et puis après, on viendra à la mémoire déclarative. Et puis, je vous expliquerai comment on va décliner à nouveau cette mémoire déclarative. Alors d'abord, la mémoire de travail, c'est la mémoire qui permet de gérer les situations présentes. C'est la mémoire, par exemple, je vais prendre un numéro de téléphone, je vais garder ce numéro de téléphone quelques secondes avant de le composer sur le cadran. Vous voyez, c'est ce genre de situation. C'est la conversation qu'on a tout de suite. Donc, pour se comprendre l'un et l'autre, on a besoin de maintenir un certain nombre de mots en tête pour comprendre la phrase, pour réagir à cette phrase. Et puis, éventuellement, on va oublier les détails de ce que l'on vient de vivre, si ça n'a pas une importance cruciale pour la suite.
Une mémoire de l'instant.
Oui, c'est la mémoire de l'instant. C'est un petit peu plus long que l'instant, si vous me demandez la longueur. Bon, on ne peut pas donner vraiment une taille à cette mémoire, mais c'est de l'ordre de quelques secondes, quelques dizaines de secondes. Hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur. Vous voyez, c'est avoir une espèce de perception intégrée du monde qui nous entoure pour gérer une situation présente et dans cette situation présente, eh bien, pouvoir utiliser les informations à différentes fins. Par exemple, raisonner ou calculer ou faire différentes tâches à partir du matériel qui est présenté à nous. Voilà, donc c'est le maintien en mémoire pendant un certain temps pour réaliser différentes tâches. C'est comme ça qu'on peut définir cette mémoire de travail qui est synonyme. Mais disons que c'est un concept un petit peu plus neuf et un petit peu plus moderne et riche, mais qui est synonyme de ce qu'on appelait autrefois la mémoire à court terme. Donc qui est un concept qu'on trouve
par
ici
opposition
et là.
À la mémoire à long terme,
alors,
qui fait référence peut-être aux souvenirs, certainement.
Alors, par rapport à la mémoire à long terme, absolument, qui fait référence à différentes formes de mémoire, qui sont au contraire des formes de mémoire qui nous permettent de maintenir des informations, cette fois-ci, sur des durées beaucoup plus longues. Alors, qui comprend la mémoire des souvenirs, donc j'y viens, mais qui comprend également d'autres formes de mémoire, y compris la mémoire procédurale dont on a parlé. Et puis la mémoire des connaissances générales sur le monde qui ne sont pas des souvenirs. Alors, ces mémoires que vous évoquez, vous avez parlé de la mémoire déclarative. La mémoire déclarative, c'est un terme qui a été proposé par un grand chercheur américain qui s'appelle Larry Squire. Et en se fondant sur des termes qui avaient été utilisés chez les informaticiens, ou les informaticiens qui font de l'intelligence artificielle, en opposant la mémoire procédurale, donc dont on vient de parler, qui est une mémoire qui permet de maintenir des automatismes, mais que l'on va en fait avoir du mal à verbaliser. C'est-à-dire que quand on a appris à faire du ski, on sait faire du ski, mais tout du moins pour le skieur moyen, ce skieur va avoir du mal à verbaliser comment il fait du ski. C'est-à-dire qu'il n'a pas, le skieur moyen, il n'a pas le niveau d'un enseignant, d'un moniteur, de quelqu'un qui va pouvoir enseigner le ski, qui va pouvoir mettre en mots la façon de faire du ski. Non, le skieur moyen, qui va à la montagne une fois ou deux semaines par an, il se retrouve sur ses skis, il fait du ski. Il fait du ski parce que il a acquis cet automatisme, mais il va avoir du mal à déclarer,
décortiquer
et à expliquer, à déclarer. Hein. Je prends ce terme en référence à mémoire déclarative. Il va avoir du mal à déclarer comment il fait exactement. D'accord. En faisant des efforts, il pourra trouver certains éléments qu'on lui a appris d'ailleurs auparavant sur comment mettre ses skis quand on fait un virage, etc., etc. Mais ça va lui demander un effort assez important. Alors que quand il se retrouve en haut de la piste, même s'il n'a pas fait du ski depuis un an, les choses se passent pas trop mal. Et c'est assez étonnant, hein, cette différence entre l'automatisme qui est maintenu sur le long terme et puis la difficulté à expliquer ce que l'on fait dans telle et telle situation. Donc la mémoire déclarative, vous voyez bien, elle s'oppose à la mémoire procédurale. La mémoire déclarative, c'est au contraire la mémoire de tout ce que l'on peut expliquer, verbaliser, mettre sous la forme également d'images mentales. Alors, si on reprend notre proposition en 5 systèmes de mémoire,
oui.
En fait, la mémoire déclarative, on va l'éclater en 2 systèmes distincts, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Donc la mémoire sémantique, je commence par elle,
Oui.
c'est la mémoire des mots, des concepts, des connaissances sur le monde, de certaines connaissances également sur soi, mais sans référence au contexte d'acquisition de ces connaissances. C'est par exemple, je sais que Rome est la capitale de l'Italie, donc ça c'est une connaissance générale sur
Oui.
le monde, je sais que tel mot a telle signification, mais je sais également des choses sur moi-même. Je sais que j'ai été professeur à l'université de Caen pendant 10 ans. Quand je dis ça, je fais référence à ma sémantique personnelle. Je donne pas des souvenirs précis de ma vie quand je dis ça. Ce sont un certain nombre de choses
Ça reste
que je...
factuel.
Voilà, c'est des choses que je connais sur moi. Donc ça, c'est la mémoire sémantique. Cette mémoire sémantique, on va l'opposer, parce que c'est toujours un petit peu plus facile d'opposer les choses pour les définir. On va l'opposer à la mémoire épisodique. Alors la mémoire épisodique, vous l'avez en fait définie tout à l'heure. Je pense que la façon de la définir la plus juste, c'est de dire c'est la mémoire des souvenirs. Donc là, vous voyez que c'est une mémoire qui est autobiographique, qui est personnelle. C'est la mémoire des souvenirs de l'individu. Et les souvenirs, donc, sont cette fois-ci situés dans leur contexte temporel et spatial d'acquisition. Donc si je reprends l'exemple de Rome,
Oui.
eh bien c'est le souvenir d'avoir été à Rome en juillet dernier avec ma famille. Et puis ce sont des souvenirs extrêmement précis de certains moments où on s'est trouvé devant tel monument, enfin où il s'est passé telle et telle anecdote. Et avec une notion encore supplémentaire, c'est celle de voyage dans le temps. C'est-à-dire c'est vraiment l'impression de ne pas être à Paris aujourd'hui, tel jour de la semaine, etc., mais de se projeter dans le temps et dans l'espace, et l'impression de se retrouver dans le moment originel où nous avons vécu cette situation. C'est ça la particularité de la mémoire épisodique.
C'est la couleur du mot qui nous fait en fait revivre.
Alors, comment est-ce qu'on a accès à ces souvenirs? Il y a différents chemins. En fait, d'accès à ce souvenir, ça peut être effectivement un chemin relativement direct. Si ce souvenir de Rome est très précis encore dans la mémoire de l'individu, c'est effectivement le mot Rome tout de suite peut renvoyer de façon quasi irrépressible à un souvenir précis concernant Rome. Dans d'autres cas, le chemin est beaucoup moins aisé. C'est-à-dire que dans beaucoup de situations, eh bien, il va falloir faire des efforts pour retrouver les indices qui vont permettre de se réinstaller, si on peut dire, dans la situation originelle. Donc ça va demander un effort, des stratégies diverses hein, d'ailleurs, pour accéder à ce souvenir épisodique.
Alors Francis Eustache, je vous propose de marquer une courte pause et on se retrouve pour la suite de notre émission dans quelques instants pour peut-être parler maintenant des fameuses pathologies de la mémoire, de cette mémoire qui nous joue des tours. À tout de suite.
Nous venons de vivre une élection présidentielle qui a passionné les Français et de clore la présidence de Jacques Chirac après 12 années à l'Élysée. Henri Amouroux, fin observateur de l'actualité en tant que journaliste, chroniqueur au Figaro et historien, se livre à l'exercice de narrer les 3 fins de règne, ce sont ses propres termes, du général de Gaulle, de François Mitterrand et de Jacques Chirac, où l'on comprend mieux les différences de personnalité de ces 3 hommes, mais aussi l'évolution de la société française dans ses rapports à l'institution présidentielle. L'interview s'est faite en 4 temps, d'abord une présentation générale du livre d'Henri Amouroux, 3 fins de règne, puis une émission consacrée à chacun des 3 présidents qui ont passé plus de 10 années à l'Élysée. Criblées d'anecdotes et de commentaires, les interviews d'Henri Amouroux ne manqueront pas de vous surprendre. Ces émissions sont en libre téléchargement sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Francis Eustache, avec qui nous parlons des pathologies de la mémoire, un sujet de recherche en compagnie de Béatrice Desgranges, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui, mais qui a longuement contribué à ces recherches, qui se poursuivent d'ailleurs, et pour lesquelles Francis Eustache et Béatrice Desgranges ont reçu le prix de la Fondation Énergie 2007, prix de l'Institut de France. Francis Eustache, nous avons donc différencié les différentes mémoires. Peut-être pourrions-nous essayer de les localiser dans ce cerveau, même si nous ne connaissons peut-être pas encore tout, et notamment l'hippocampe, puisque lorsque l'on feuillette les différents magazines, puisque c'est un sujet très intéressant, la mémoire qui intéresse beaucoup de monde, on fait toujours référence à l'hippocampe. Alors quel est son rôle dans ces différentes mémoires ?
Son rôle est très important, et c'est vrai que c'est l'évolution des choses. C'est vrai qu'on lit maintenant des choses d'ailleurs très justes dans la grande presse.
Ça vous fait sourire.
Oui, ça me
fait sourire. Ça n'a pas toujours été le cas.
Mais non, ça n'a pas été le cas. Je pense que c'est un phénomène nouveau. Et moi, je trouve ça très bien, parce que je trouve que c'est un très beau sujet. Et donc, je trouve ça très bien que les gens soient instruits à ce sujet. Bon, la mémoire, en fait, c'est une fonction, je crois qu'on l'a bien compris, extrêmement complexe. Donc, elle va être répartie dans de nombreuses régions cérébrales. Elle va être organisée sous la forme de réseaux. Les cinq mémoires dont j'ai parlé sont cinq grands systèmes de mémoire qui reposent sur des structures cérébrales en partie distinctes, mais qui sont organisées, interconnectées les unes par rapport aux autres. Et l'hippocampe, bon, puisqu'on commence par l'hippocampe, a un rôle extrêmement important, un rôle un peu d'index ou de grand aiguillage qui va permettre en quelque sorte d'organiser les choses. Et c'est vrai que quand cet hippocampe est lésé, eh bien, les patients vont avoir des troubles généralement graves de la mémoire. C'est ce que l'on observe dans les syndromes amnésiques. Les syndromes amnésiques, donc, qui vont entraîner des troubles de mémoire particulièrement importants. Et c'est vrai aussi dans la maladie d'Alzheimer, qui est caractérisée par des lésions qui prennent leur origine dans cette région hippocampique.
Donc, cet hippocampe va mettre dans différentes cases, pour essayer de faire une caricature, un petit dessin, va remettre chaque information dans différentes cases. Par exemple, une information à conserver très peu de temps, une information à garder très longtemps, parce qu'en plus, il y a certainement des émotions qui vont avec et qui vont donner un caractère marquant.
Oui, on peut représenter les choses comme ça. L'hippocampe, en association avec d'autres structures qui vont jouer ce rôle que vous décrivez, on garde ou on ne garde pas, on met dans une case, on ne met pas dans une case. Alors, c'est en association avec une structure qui est très proche de l'hippocampe, qui s'appelle l'amygdale, qui va, pour sa part, gérer la connotation affective et émotionnelle des souvenirs. Donc, cette connotation affective et émotionnelle va jouer un rôle, parce que généralement, quand des souvenirs ont une coloration affective particulière, bien, ils sont mieux retenus que des souvenirs à connotation neutre. Et puis, il y a également des régions qui sont très importantes, dont le rôle a été souligné relativement récemment. Ce sont les régions frontales du cerveau, le cortex préfrontal, qui va jouer un rôle à la fois dans l'encodage, c'est-à-dire dans la prise d'informations, puis qui va jouer également un rôle dans la récupération des informations. Cette importance des régions préfrontales souligne le fait que la mémoire, les activités mnésiques, que ce soit l'encodage ou la récupération, ne sont pas toujours des activités automatiques, mais ces activités vont demander un effort du sujet, la mise en place de stratégies, tant pour mémoriser que pour récupérer les informations. Donc, l'activité de ces lobes frontaux est importante, mais c'est vrai que la structure clé, notamment dans les pathologies de la mémoire, eh bien, c'est effectivement l'hippocampe, qui va avoir, quand elle est lésée, quand cette structure est lésée, les conséquences délétères les plus importantes.
Et alors, ces informations sont stockées dans les milliards de neurones qui se trouvent dans notre cerveau ?
Oui, alors, à un niveau intégré, quand on s'intéresse à l'ensemble du cerveau, mais c'est vrai que les zones où vont être stockés les souvenirs sont des régions relativement vastes et qui implique en fait une bonne partie du cortex cérébral. Le cortex cérébral, ce sont les régions qui sont composées de substances grises et qui entourent en quelque sorte, enveloppent, c'est la signification de cortex, qui enveloppe en fait l'ensemble du cerveau. Et ces régions qui sont dépositaires des souvenirs, si on veut représenter les choses d'une façon peut-être un petit peu matérialiste, hein, ces régions sont relativement proches des aires d'intégration sensorielle. Donc en fait, nos souvenirs vont être disséminés dans le cortex, vont être disséminés dans des régions qui sont relativement proches de ces régions sensorielles. Et leur particularité, eh bien, ça va être que ces différentes régions sont reliées les unes aux autres, parce qu'un souvenir, c'est un phénomène relativement complexe, hein,
qui met en jeu
différentes sensations, tout à fait. Et l'hippocampe, son rôle, ça va être justement de renforcer ces différentes connexions entre différentes régions du cerveau pour faire en sorte qu'un souvenir, quand un souvenir est rappelé, bien qu'il soit rappelé dans sa plénitude avec les couleurs, les bruits, les odeurs. Si on prend l'exemple d'un pique-nique, par exemple, on voit tout de suite une scène extrêmement complexe, y compris l'émotion qui se rattache à ce moment qui est cher dans la vie de l'individu.
Alors, on va maintenant pouvoir parler un peu plus de vos travaux sur les pathologies. Vous nous parliez à l'instant de l'amnésie. Il existe plusieurs types d'amnésie. Il y a les amnésies, on va dire, permanentes et celles qui sont transitoires. Et dans votre dossier de candidature, hein, qui vous a permis de bénéficier de ce prix de la Fondation Énergie, vous expliquez que justement les amnésies transitoires sont plus difficiles à étudier parce que justement elles sont transitoires. Donc le temps de repérer quelqu'un, un patient potentiel, et le moment où en fait on va pouvoir travailler, il se passe très peu de temps. Et pourtant ça reste un sujet passionnant, avec peut-être justement des découvertes de votre équipe.
Oui, effectivement, on peut classer les amnésies de différentes façons. Alors tout d'abord, on peut parler des syndromes amnésiques qui sont des formes d'amnésie particulièrement sévères, hein, où le patient perd à la fois la composante entérograde de la mémoire, c'est-à-dire que le sujet n'arrive pas à former de nouveaux souvenirs, et également la composante dite rétrograde de la mémoire, c'est-à-dire qu'il oublie en quelque sorte son passé. Et ces amnésies, donc ces syndromes amnésiques, on peut les classer de différentes façons. Une façon de faire, c'est celle que vous avez utilisée tout de suite, c'est de différencier les amnésies permanentes et les amnésies transitoires. Alors, les syndromes amnésiques permanents, ça va être par exemple un exemple sur lequel nous travaillons dans l'unité, c'est le syndrome de Korsakoff, qui est généralement, c'est pas toujours le cas, mais qui est généralement consécutif à un alcoolisme chronique durable. Et donc, ce sont des patients qui vont avoir des troubles très, très sévères, qui vont avoir des difficultés à acquérir de nouveaux souvenirs, qui vont perdre une bonne partie de leur passé avec ce qu'on appelle un gradient de Ribot, c'est-à-dire que plus on va remonter dans le temps, et généralement, les patients vont avoir quelques îlots de souvenirs préservés dans ce qui concerne les souvenirs les plus anciens, mais autrement, ils vont avoir une amnésie rétrograde très importante.
Alors, c'est une atrophie de la matière grise. Quelle est
Alors,
la conséquence dans
le syndrome de Korsakoff, on ne connaît pas encore parfaitement les lésions du Korsakoff, mais on sait qu'il y a un circuit de la mémoire, hein, qui n'avait pas été décrit comme un circuit de la mémoire dans un premier temps, mais on sait maintenant qu'il est important, qui s'appelle le circuit de Papez. Alors le circuit de Papez, c'est le circuit hippocampo, donc de hippocampe, mamilo pour corps mammilaire, hippocampo, mamilo, thalamique, singulaire. Donc il y a tout un circuit, vous voyez, donc qui implique des structures comme l'hippocampe, le thalamus, le cortex singulaire, qui joue un rôle extrêmement important dans la fixation, on pourrait dire, des souvenirs. Et c'est ce circuit qui est atteint dans le syndrome de Korsakoff pour des raisons diverses, en fait, dans l'alcoolisme chronique. Il y a des raisons qui sont d'ordre vitaminique, hein, c'est-à-dire que l'alcoolisme chronique crée des carences en vitamines, exactement, notamment en thiamine, qui vont provoquer ces lésions du circuit de Papez. Et puis l'alcool, et ça on le sait maintenant un petit peu mieux, a également des effets directs, des effets toxiques directs sur le cerveau, et notamment sur les régions frontales dont on parlait tout à l'heure. Donc ces effets toxiques vont encore aggraver les troubles de mémoire, puisque le patient va devenir amnésique et en même temps, il va perdre des capacités qui pourraient lui permettre de compenser en partie son amnésie. Donc ça, c'est un syndrome amnésique malheureusement permanent, définitif. Et les patients
qui est amené en plus à s'accentuer.
Ben, les patients qui ont un syndrome amnésique de ce type qui est installé, bien, malheureusement, vont conserver ce syndrome amnésique. Et Ces patients donc sont très invalides en quelque sorte, hein, très handicapés par leur syndrome amnésique. Alors généralement, ils sont pris en charge par leur famille, ou quand ils n'ont pas de famille qui les prend en charge, eh bien, ils terminent leur vie dans une maison de retraite ou dans un asile psychiatrique. C'est une pathologie vraiment très grave. Il faut bien voir que ces syndromes amnésiques, c'est très différent des petits troubles de mémoire qu'on a tous, parce qu'on tout le monde se plaint de sa mémoire, et peut-être à juste titre, on pourrait y revenir. On peut toujours se plaindre, mais ces pathologies n'ont rien à voir avec les petits soucis que l'on peut avoir dans la vie quotidienne.
Et le syndrome de Korsakoff est uniquement provoqué par l'alcoolisme?
Principalement.
Il peut y avoir d'autres,
De façon générale, ce sont des carences. Hein. Donc ces carences, elles peuvent être produites dans d'autres situations. Mais disons que dans nos sociétés, c'est de loin la cause la plus fréquente. Donc c'est un exemple de syndrome amnésique permanent. Autrement, donc comme vous le disiez auparavant, il existe également des syndromes amnésiques transitoires, et effectivement qui sont beaucoup plus difficiles à étudier parce que par définition ils vont durer quelques heures. Hein, c'est de l'ordre en moyenne 6 heures. Et le plus connu d'entre eux, c'est l'ictus amnésique idiopathique, qui a été décrit d'ailleurs par des chercheurs français de Lyon il y a maintenant une cinquantaine d'années, et que nous étudions beaucoup dans l'unité INSERM. Nous sommes d'ailleurs une des équipes au monde qui travaille sur ce sujet, qui demande une organisation assez complexe, parce que comme vous le disiez, c'est pas facile, parce que déjà il faut que le malade soit détecté. C'est-à-dire que ça passe inaperçu. Hein. Si le malade est chez lui, eh bien, il peut rester amnésique comme ça quelques heures, et puis le syndrome amnésique reste passe inaperçu.
C'est peut-être chronique, c'est-à-dire que c'est des moments comme ça qui vont revenir.
Alors, chronique, le terme est trop fort. Ce qui peut se passer dans certains cas, c'est que le sujet fasse plusieurs ictus amnésiques au cours de sa vie. Mais on ne peut pas parler de chronique parce que généralement, il y a un seul épisode. Et puis quand il y a plusieurs épisodes, eh bien c'est 2, 3, 4, 5 épisodes. C'est pas quelque chose de récurrent comme je sais pas, par exemple une épilepsie. Voilà, je crois que on peut tout à fait opposer à l'épilepsie où là dans certaines formes, et notamment les formes graves, les crises sont très fréquentes, il y a même des fois plusieurs crises par jour ou plusieurs crises par semaine. L'ictus amnésique, c'est pas du tout ça. Hein, l'image qu'il faut, je pense, se forger de l'ictus amnésique, c'est avant tout un épisode dans la vie de l'individu. Où cet individu, alors c'est très très impressionnant, cet individu devient totalement amnésique. C'est-à-dire qu'il est incapable de former un souvenir. C'est-à-dire que si vous lui donnez une information à apprendre, par exemple, souvenez-vous que cette montre, eh bien je la cache ici, et puis vous demandez au sujet une minute après, est-ce que j'avais une montre, est-ce que j'ai caché une montre, le sujet ne s'en rappelle pas. Alors qu'il est très présent. C'est ça qui est quand même assez étonnant, c'est la spécificité du trouble de mémoire. Le sujet est avec vous, il vous parle, il répond à vos questions, il n'a pas de problème d'attention, il a bien fait attention que la montre était cachée derrière le livre sur le bureau, et pourtant 2 minutes après, il ne se souvient même pas qu'on lui a montré une montre.
Et cette mémoire à court terme, en fait, c'est encore à minuit.
Alors, la mémoire à court terme, on peut dire qu'elle est un petit peu rétrécie, tout à fait. Elle est un petit peu rétrécie, puis c'est surtout la mémoire à long terme, et surtout la mémoire épisodique, là, qui est considérablement atteinte. Et c'est vrai également quand on remonte dans le temps, quand on remonte dans le passé du sujet, puisque le patient va avoir oublié eh bien les circonstances qui précédaient cet ictus amnésique, mais il va avoir également oublié ce qu'il a fait la semaine passée, ce qu'il a fait l'année passée, et puis alors bon, avec des différences, hein, d'un ictus à l'autre, d'un patient à l'autre, et puis il y a également des différences au moment où on voit le sujet. Parce qu'on ne voit pas toujours le sujet au cœur, on pourrait dire, de l'ictus, mais on le voit souvent lors de la phase de récupération. Et en fait, ce qui va récupérer le plus vite au cours de l'ictus, c'est cette amnésie rétrograde, avec une sorte de récupération qui suit comme ça la ligne passé-présent. C'est-à-dire que le passé lointain va avoir tendance à récupérer avant le passé le plus récent.
Et là, par exemple, si on reprend votre exemple de montre cachée quelque part, pas très loin, si on associe une émotion forte à cette action, est-ce que cette personne amnésique va s'en souvenir ou pas?
Alors, a priori, les quelques travaux qui ont été faits dans ce domaine montrent que même avec le recours d'une émotion, il y a une amnésie qui est vraiment très très importante pour tout ce qui concerne les aspects épisodiques, c'est-à-dire la mémoire du souvenir. Par contre, ce que l'on a montré dans l'unité, c'est que, et ça c'est quelque chose d'assez étonnant, c'est que les patients, néanmoins, vont être capables de former certaines connaissances. C'est-à-dire qu'ils vont conserver des connaissances de ce qu'ils ont vécu, mais sans en maintenir, sans en former pour autant le souvenir.
Alors, c'est inconscient en quelque sorte.
Alors c'est inconscient. Je pense qu'on peut utiliser ce terme, mais surtout sans connotation psychanalytique, hein, parce que là on est dans une forme de mémoire inconsciente qui a, je pense, pas grand-chose à voir avec les représentations théoriques qu'en ont formulées les psychanalystes. Hein. Je pense que ce sont des choses un petit peu différentes. Alors je vais vous proposer une phrase. Vous allez voir, un petit peu difficile à comprendre. On va faire un petit jeu si vous voulez.
Oui,
bien.
Oui, allez-y, jouons.
Je vais vous dire la phrase suivante. La meule de foin, prenez de l'importance, car la toile s'était déchirée. Donc, vous voyez, c'est une phrase qui est assez compliquée, qui est assez longue. Le patient qui présente un ictus amnésique a en fait la même réaction que vous. C'est-à-dire, il se dit cette phrase, elle est correcte syntaxiquement. Hein, la meule de foin, prenez de l'importance.
Car la toile s'est déchirée.
Voilà. Il peut tout à fait faire ce que vous venez de faire là. C'est-à-dire qu'il a intégrer en quelque sorte la phrase dans sa mémoire de travail. Il a une mémoire de travail qui est quand même suffisante pour comprendre ce qu'on peut comprendre de cette phrase-là. Mais au bout du compte, si je vous demande ou si je lui demande d'expliquer cette phrase, alors vous, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase ?
Qu'est-ce que ça représente ?
Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quand on écoute une phrase, on se représente une certaine situation. Et là, quelle est la situation que vous représentez ? La meule de foin qui prend de l'importance, car la toile s'était déchirée. Comment vous voyez les choses ? Non, c'est pas facile.
Non, effectivement.
Alors, je vais
oui.
vous aider. Je vais vous aider. Je vais vous donner un mot qui devrait vous permettre d'éclairer la situation.
Oui.
Alors, faites bien attention, vous représentez la phrase et je vous donne le mot parachute. La meule de foin prend de l'importance car la toile s'est déchirée.
Ah oui, ça y est, j'ai compris.
Parachute.
Oui.
Donc vous voyez mieux la situation ?
Oui, j'imagine, oui.
Vous
imaginez ? J'imagine quelqu'un qui va tomber de son parachute et il va retomber sur la meule de foin.
Voilà, et la meule de foin, vous voyez, elle est particulièrement importante.
Mais il m'aura fallu un peu de temps quand même.
Non, mais il faut un peu de temps parce qu'il faut analyser la phrase et le mot qui vient éclairer la situation de la phrase. Alors, ce que l'on a fait donc avec des patients pendant un ictus amnésique, c'est que l'on a proposé un certain nombre de phrases comme ça, d'abord sans le mot-clé, donc en l'occurrence ici parachute, et puis ensuite avec le mot-clé. Et les patients pendant l'ictus ont exactement la même réaction que vous. C'est-à-dire qu'ils disent « Ah bah oui, ça y est, avec le mot parachute, je comprends bien la situation, etc. etc. » Et ce que l'on a fait ensuite, c'est que l'on a reproposé la phrase à ses patients, soit 2 heures plus tard, toujours pendant l'ictus amnésique, soit le lendemain, donc une fois que les patients n'étaient plus amnésiques. Et qu'est-ce qui s'est passé ? On a proposé les phrases, la meule de foin, etc., prenait de l'importance, la toile s'était déchirée, et là les patients nous ont expliqué la phrase. Alors qu'ils ne se souvenaient même pas de la personne qui leur avait proposé la phrase dans un premier temps. Donc, vous voyez, on avait ici une dissociation entre une mémoire épisodique totalement abolie, c'est-à-dire que le patient ne se souvient pas qu'on lui a donné cette phrase, ni le mot-clé, ni même la personne, ni le bureau où ça s'est passé.
Il a gardé l'image
en
tête.
Pourtant, son cerveau a modifié ses connaissances, puisque son cerveau a été capable de conserver le fait que le parachute et cette phrase compliquée, eh bien, ça a une signification particulière. D'accord ? Donc, on voit là une distinction entre une mémoire épisodique qui est totalement abolie au cours de ce phénomène d'ictus amnésique et une mémoire sémantique qui, elle, est relativement préservée et qui a été capable de former cette nouvelle connaissance. Voilà un exemple de ce qu'on appelle dans notre discipline, qui est la neuropsychologie, une dissociation. Une dissociation entre des processus qui sont perturber des processus qui sont au contraire préservés. Et c'est à partir de la démonstration de ce type de dissociation que l'on a progressivement proposé ce que l'on expliquait dans la première partie de cet entretien, que l'on a proposé ces différentes formes de mémoire. Parce que ces différentes formes de mémoire, eh bien, elles sont atteintes de façon sélective ou relativement sélective dans différentes pathologies de la mémoire. Et les syndromes amnésiques, que ce soit les syndromes amnésiques transitoires ou permanents, vont atteindre en priorité la mémoire épisodique. C'est en quelque sorte la mémoire la plus fragile, cette mémoire des souvenirs.
Alors, avant de parler des maladies neurodégénératives, qui est aussi un domaine sur lequel vous travaillez, bien naturellement, peut-être deux minutes sur nos petits troubles de mémoire, qui pourtant ne font pas de nous des amnésiques, et comme ça, des petites carences. Ouais. Par exemple, au moment où on va faire une phrase, on va oublier le mot qu'on voulait dire, on va chercher.
Alors, c'est très bien de faire le parallèle et de montrer la différence entre les pathologies de la mémoire, les pathologies graves de la mémoire, comme celles que je viens d'évoquer là, même si l'ictus amnésique c'est un phénomène fugitif. Mais ça montre la gravité des troubles de mémoire dans certaines situations, parce que malheureusement, quand ces syndromes amnésiques sont permanents, eh bien, ils vont gêner, enfin, le terme est faible, considérablement la vie de l'individu. Alors que Monsieur Tout-le-Monde, les situations sont très différentes. Premièrement, sont des moments. Généralement, on va buter sur un mot ou on va avoir des difficultés à récupérer un souvenir particulier à un moment donné. Et généralement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Et c'est plus une difficulté passagère qui peut être compensée par une recherche en mémoire plus active ou un autre moment qui est plus adapté. C'est souvent un mauvais chemin que l'on a pris dans tout le travail qui nous permet d'avoir accès à un souvenir. Alors que l'amnésique, le problème, il est beaucoup plus fondamental. Et malheureusement, même en lui donnant des indices, dans le cas des amnésies les plus graves, ces indices ne vont pas être utiles. Vous voyez, c'est une différence fondamentale avec le sujet sain qui peut être aidé par différentes méthodes, notamment des tâches de reconnaissance. Vous voyez, on va demander au sujet de choisir quelle est la bonne réponse. Là, le sujet sain, il va retrouver tout de suite la bonne réponse. Il n'a pas le mot juste, mais si on lui propose le mot juste mélangé à d'autres mots,
il va tout de suite
trouver le mot juste. Donc, vous voyez, c'est un problème de trouver le bon chemin, les bons indices à un moment précis, ce qui n'a rien à voir avec le syndrome amnésique où c'est vraiment le souvenir qui est perturbé, quoi.
La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Alors, peut-être venons-en à la maladie d'Alzheimer, qui est une des maladies neurodégénératives. Il y a plusieurs maladies neurodégénératives. La maladie d'Alzheimer, on en parle beaucoup parce que de plus en plus de personnes âgées, puisque la France aussi est un pays vieillissant, sont touchées. Vous disiez 850 000 en préparant cette émission.
Dans la grande étude qui s'appelle PACQUID, Personnes âgées quid, qui est menée à Bordeaux par nos collaborateurs de l'INSERM, Jean-François Dartigle et ses collègues, c'est le chiffre auquel on arrive, qui est une extrapolation, parce que c'est difficile de proposer des chiffres vraiment très précis, exacts, sur le nombre de patients, mais c'est à peu près cela aujourd'hui, et ce sera très vite 1 million de malades. On va arriver très très vite à ce chiffre. Donc, avant de parler de la maladie elle-même et des aspects cognitifs qui nous intéressent plus directement dans l'unité, il faut bien voir qu'on est là en présence d'un problème de santé publique, et au-delà, on est même en face d'un enjeu de société. La société va devoir s'adapter à des patients donc dépendants, et dépendants notamment sur le plan cognitif, qu'il va falloir prendre en charge. Et donc, il va falloir trouver des structures qui permettent d'aider ces malades et d'aider également leur famille, leur entourage.
La maladie d'Alzheimer, c'est une maladie qui touche les personnes âgées. Est-ce que c'est une maladie, on va dire, logique, entre guillemets, du vieillissement, puisque nous perdons des neurones tous les jours? Alors, est-ce que c'est une perte accrue, on va dire, des neurones?
Oui. Alors, dans ce que vous venez de dire, là, il y a des aspects justes et puis il y a des aspects qu'il faut un tout petit peu corriger. C'est une maladie, hein, ça c'est tout à fait juste, qui va toucher plus souvent les personnes âgées. C'est-à-dire que plus on avance en âge et plus on a de risques de développer cette maladie, tout du moins jusqu'à 90, 95 ans. Après, on sait pas bien. Après, on sait pas bien. Les aspects et les études sont moins claires au-delà de ce grand âge. Mais c'est une maladie qui va toucher également des sujets plus jeunes, de l'ordre d'une cinquantaine d'années, 55, 60 ans. Tout ça pour vous montrer que c'est vraiment une maladie. C'est une maladie qui va toucher plus souvent des personnes âgées, mais il s'agit bien d'une maladie. Et ce n'est pas du tout une exagération du vieillissement normal. Donc ça, ce sont des théories qui ont été proposées à un certain moment, et on comprend que ces théories aient été proposées à un moment donné, compte tenu de l'évolution des connaissances il y a encore quelques années. Aujourd'hui, et c'est, je dois dire que nous avons fait des travaux, c'est notamment les travaux qui sont dirigés par Béatrice Desgrances qui sont les plus pertinents dans ce domaine. Et elle a notamment publié un article très récent avec une de ses étudiantes qui s'appelle Gregoria Kalpoussos, qui montre que les lésions étudiées en IRM morphologique, ce qu'on utilise dans l'unité des techniques d'imagerie cérébrale, donc comme l'IRM morphologique, et puis la tomographie par émission de positon, qui est une technique plus complexe, qui permet d'étudier le métabolisme du cerveau. Et en fait, ce que Béatrice et Gregoria montrent dans cette étude, c'est que chez des sujets âgés, qui sont cette fois-ci sains, qui n'ont pas de maladie d'Alzheimer, eh bien, les dysfonctionnements concernent principalement le cortex préfrontal, et puis également une partie de l'hippocampe, mais qui est la partie postérieure de l'hippocampe, alors qu'au contraire, dans la maladie d'Alzheimer, ce qui est atteint en premier, c'est la partie antérieure de l'hippocampe, et puis d'autres régions du cerveau, dont on a parlé d'ailleurs tout à l'heure à une autre occasion, qui est le gyrus singulaire dans sa partie postérieure. Et donc, on a presque une... Ouais, le circuit de Papez, voilà, exactement. Donc, c'est pas le circuit de Papez qui est touché au cours du vieillissement normal. On a presque, dans ce travail de Béatrice, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que avec Gregoria, elles ont étudié au cours du vieillissement à la fois ce qui était perturbé, mais également ce qui était préservé. Et il y a en fait presque une image en miroir, vieillissement, maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que ce qui est touché dans la maladie d'Alzheimer, bon, ça va être la partie antérieure de l'hippocampe, en connexion directe avec le singulaire postérieur. Et puis ce qui va être relativement préservé, c'est le cortex préfrontal. Alors que dans le vieillissement dit normal, eh bien, c'est quasiment l'inverse. C'est-à-dire, ce qui va être touché en premier, ça va être surtout le cortex préfrontal, avec un relatif respect de l'hippocampe antérieur et du gyrus singulaire postérieur. Donc, vous voyez, pour répondre, je crois, de façon catégorique, parce que bon, je pense qu'il faut avoir un discours nuancé quand il faut avoir un discours nuancé. Mais quand on a des résultats bien précis, je crois que c'est important de le dire. Et puis, je pense que c'est très important pour l'évolution des choses, de bien dire au grand public qu'on est là en présence d'une maladie. Parce que une maladie, eh bien, on traite une maladie comme on traite une maladie, comme on traite des malades. C'est-à-dire qu'on a potentiellement des moyens pour y remédier et qu'on n'est pas devant un phénomène inéluctable. Donc même si nos moyens thérapeutiques aujourd'hui sont encore modestes et restreints, on est néanmoins devant une maladie qu'il faut prendre en compte comme cela.
Alors vous, avec votre équipe ainsi que l'équipe de Béatrice Desgrances, vous regardez par imagerie quelles sont les zones en fait qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer. Vous avez établi une cartographie.
Ouais. Alors, je vous remercie pour cette question qui me fait plaisir et qui fait tout à fait bien la jonction avec le thème précédent. Et là, je crois que les travaux de Béatrice, qui sont menés depuis de nombreuses années, parce qu'en fait, on a commencé à travailler sur ce sujet. Bon, je vais pas trop remonter dans le temps, parce que ça pourrait être désagréable par certains côtés, mais disons, ça fait plus de 10 ans que l'on travaille sur ce sujet. On a la chance d'avoir à Caen un centre de recherche très très efficace avec des techniques de recherche tout à fait en pointe dans le domaine de l'imagerie cérébrale. Donc ce centre de recherche s'appelle Cicéron Et depuis très longtemps, nous utilisons conjointement donc ces techniques d'imagerie morphologique, donc l'IRM, et puis surtout des techniques très très intéressantes qui permettent d'étudier le métabolisme du cerveau, c'est-à-dire ce que le cerveau consomme, et notamment le cerveau est un gros consommateur de glucose. Et en étudiant la consommation de glucose du cerveau et notamment les modifications de cette consommation de glucose dans les maladies dégénératives, eh bien on peut voir, hein, le terme est adapté, on peut visualiser les structures du cerveau eh bien, où il existe un mauvais fonctionnement, y compris des fois de façon très précoce, au tout début de la maladie. Et ce qu'a fait Béatrice, c'est qu'effectivement, elle a élaboré une véritable cartographie des dysfonctionnements métaboliques dans la maladie d'Alzheimer. Et ça, c'était quelque chose de très très nouveau. Le premier grand article qui a été publié il y a maintenant 10 ans, c'était en 98, hein, il y a presque 10 ans, dans Brain, dans une revue qui s'appelle Brain, montrait que en reprenant les cinq systèmes que j'ai évoqués au début de notre entretien, eh bien dans la maladie d'Alzheimer, c'était des régions du cerveau distinct, c'était le dysfonctionnement de régions cérébrales distinctes qui expliquait les perturbations de ces différents systèmes de mémoire dans la maladie d'Alzheimer, avec notamment cette région hippocampique, hein, dont le dysfonctionnement, dont le métabolisme qui diminuait au fil du temps, eh bien cet hypométabolisme expliquait les premiers troubles de mémoire épisodique dans la maladie d'Alzheimer. Alors, ce résultat, quand on en parle maintenant à des étudiants, c'est amusant parce que ils considèrent que c'est normal.
Oui, vous voyez,
c'est ça, c'est très bien parce
que c'est
une évidence. Ça veut dire que c'est un message qui est tellement bien passé qu'il est devenu quelque chose qui est quasiment dans les mœurs. C'est tout juste si on ne va pas lire ça dans la grande presse. Donc moi, j'en suis ravi. Mais en fait, c'était un résultat très important parce que il permettait vraiment de tourner la page et de laisser complètement de côté ce qui était écrit auparavant, puisqu'auparavant, on nous apprenait à l'école, quand on faisait des études en neurosciences, que la maladie d'Alzheimer, c'était une faillite globale des fonctions mentales et que tout ça était en rapport avec une atrophie diffuse du cerveau. Alors que là, le travail qui a été fait par Béatrice montrait au contraire que c'était des régions précises du cerveau, le dysfonctionnement de régions précises du cerveau, qui expliquait des troubles cognitifs également très précis.
Très précis.
Donc ça permettait une vision en mosaïque en quelque sorte de la maladie qui a complètement révolutionné son analyse. Et donc à partir de là, ça a permis de faire des travaux beaucoup plus précis. Et puis, l'évolution ultérieure, alors il y a eu un phénomène de rebond, on pourrait dire, c'est que on a assimilé, c'était la fin des années 90, le début des années 2000, on a tout à fait assimilé cette vision des choses, ce que j'appelais tout de suite la vision en mosaïque. Et puis après, on est tombé sur une autre difficulté. Une autre difficulté tout à fait passionnante, c'est qu'on s'est aperçu que quand la maladie évoluait, eh bien, on ne retrouvait pas la même cartographie. C'est-à-dire que les régions qui étaient responsables de certaines perturbations, oui, à un certain moment, eh bien, on ne les retrouvait pas forcément et qu'un petit peu plus tard, c'est-à-dire chez des patients qui avaient des troubles plus sévères, eh bien, les corrélations, parce qu'on a, je ne vais pas trop rentrer dans des détails techniques, mais on utilisait des techniques de corrélation, mais on s'apercevait que c'était d'autres régions, en fait, qui étaient corrélées avec le déficit cognitif en question. Et on a interprété ce résultat comme la survenue de mécanismes compensatoires. C'est-à-dire que quand des régions du cerveau ne sont plus efficaces pour faire telle ou telle tâche,
d'autres prennent le relais,
voilà,
sont surmenées.
D'autres qui sont surmenées, un peu on peut dire ça. Il y a d'autres régions du cerveau qui vont tenter, tout du moins, de compenser les régions, l'activité des régions qui ne sont plus suffisamment présentes, qui ne sont plus suffisamment efficaces. Et ça, cette notion de mécanisme compensatoire, c'est une notion qui était connue notamment dans les lésions focales du cerveau. Parce qu'on sait que le cerveau est doué d'une grande plasticité, comme ça d'ailleurs que certains patients vont récupérer grâce à la rééducation. Par exemple, un patient aphasique qui a des troubles du langage. Après des lésions de l'hémisphère gauche, eh bien, va réapprendre à parler, même si c'est pas forcément parfait, mais va réapprendre beaucoup de choses parce qu'il y a une plasticité cérébrale. Mais par contre, voyez, cette notion de plasticité cérébrale chez des sujets âgés comme ça et atteints d'une maladie neurodégénérative, eh bien, elle n'était pas pressentie. On avait une vision, il y a encore quelques années, qui était uniquement une vision en négatif. C'est-à-dire que on voyait le cerveau perdre ses neurones, perdre l'activité des neurones, on voyait les fonctions cognitives diminuer, et on ne pensait pas qu'il y avait comme ça des phénomènes compensatoires, de surmenage, vous avez dit, d'ailleurs le terme est peut-être très adapté, parce que depuis, bon, nous ne sommes pas la seule équipe, hein, bien sûr, à travailler sur le sujet, il y a notamment une équipe de Harvard avec laquelle nous sommes liés, qui fait des travaux tout à fait passionnants. Là, il y a un jeune chercheur qui s'appelle Brad Dickerson, qui a montré justement des phénomènes qu'on pourrait appeler de surmenage, je trouve que le terme est bon, au tout début de la maladie d'Alzheimer, dans un stade qu'on appelle dans notre jargon « mild cognitive impairment », c'est-à-dire déficit cognitif léger, mais on sait que ce sont des malades qui vont évoluer vers une vraie maladie d'Alzheimer. Eh bien, la région hippocampique, vous voyez, de façon tout à fait paradoxale, quand on propose cette fois-ci des tâches à des sujets, quand on utilise une autre technique hein, que celle que j'ai décrite tout à l'heure, qui s'appelle l'IRM fonctionnel, eh bien, cette région hippocampique, elle travaille plus que chez le sujet sain. C'est-à-dire qu'on a en fait une activité paradoxale de cette région, où l'activité est plus importante que l'activité qui est observée chez des sujets âgés, parce que bon, les malades d'Alzheimer, comme on disait tout à l'heure, sont relativement âgés, eh bien, une activité plus importante que chez des sujets âgés qui ne sont pas malades. Donc, vous voyez, ces phénomènes de plasticité et d'activation, hein, différents et souvent supérieurs à ce qui est observé chez le sujet sain, ben c'est maintenant quelque chose que l'on commence à mieux comprendre.
Alors Francis Eustache, malheureusement notre émission va se terminer dans quelques minutes. Je voulais vous poser la question de savoir si on pouvait l'entretenir, cette mémoire.
Ouais. Alors il faut différencier là les situations pathologiques où il existe des techniques hein, pour compenser les troubles de mémoire chez des amnésiques. Parce que vous avez compris que dans les systèmes de mémoire, il y en a certains qui sont relativement résistants aux perturbations, alors que d'autres, au contraire, sont très sensibles aux perturbations. Donc, il y a des techniques qui permettent justement d'utiliser les capacités préservées de mémoire pour les mettre à profit dans des situations de la vie quotidienne. Donc ça, c'est un point particulier. Par contre, chez le sujet sain, on pourrait dire, chez le sujet âgé en particulier, qui se plaint de sa mémoire, comment ce sujet âgé peut maintenir des capacités cognitives, et maintenant on sait même que certaines techniques permettent même de retarder l'apparition de certaines maladies dégénératives. Alors, se forcer à faire du calcul mental ou aller sur des sites internet très coûteux, tout ça je pense qu'il faut absolument proscrire ce genre d'activité, ça sert à rien. Ce qui sert à quelque chose, c'est avoir une activité intellectuelle qui peut prendre d'ailleurs des formes diverses selon les intérêts du sujet. Hein, parce que selon les intérêts du sujet, on peut choisir de jouer aux cartes ou au bridge, à la belote, selon les milieux culturels, vous voyez. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de maintenir des relations sociales. Hein, le sujet qui va se renfermer sur lui-même, qui va être tout seul, souvent malgré lui d'ailleurs, eh bien, va développer des troubles cognitifs, que ce soit dans le cadre d'une maladie, que ce soit pas forcément dans le cadre d'une vraie maladie du cerveau. Mais il va avoir des performances cognitives qui vont décliner. Au contraire, le sujet qui va maintenir des relations sociales, qui va voyager, qui va rencontrer les autres d'une façon ou d'une autre, c'est déjà en soi une activité intellectuelle. C'est ça l'activité intellectuelle. Et en même temps qu'il va lire son journal, qu'il va faire ses mots croisés, tout ça. Tout ça est extrêmement positif. Et donc, il faut plutôt penser à ce genre de situation quand on pense stimulation cognitive que se mettre à faire des problèmes ou des calculs mathématiques qui vont barber tout le monde et qui vont pas avoir de vraie efficacité sur la vraie mémoire, sur la mémoire au jour le jour, sur la mémoire quotidienne.
Et les gélules alors, c'est de la poudre de perlimpinpin?
Les gélules, il y a des gélules qui vont surtout renforcer l'attention, hein, qui peut avoir un effet bénéfique sur l'attention. Mais leur effet est quand même modeste. Par contre, là aussi, il faut bien distinguer ces gélules que les étudiants peuvent prendre à un moment donné, et puis les traitements contre la maladie. Hein. Donc la maladie d'Alzheimer, il existe maintenant des traitements qui
pour
permettent
ralentir,
de corriger, voilà, tout à fait certains symptômes et de ralentir l'évolution de la maladie. Et ça, c'est un grand progrès, même si les effets sont encore modestes aujourd'hui. Hein. On espère que ces traitements vont s'améliorer encore dans le futur. Et ça, par contre, il faut avoir une vision positive.
Eh bien, je vous remercie, Francis Eustache, de nous avoir rendu visite pour cette émission passionnante sur les pathologies de la mémoire. Avec vous, on en sait beaucoup plus. J'invite nos auditeurs à aller sur le site internet de la Cité des Sciences où on retrouve des conférences que vous avez menées au collège, je suppose. Au collège de la Cité des Sciences. Et puis également, un des ouvrages que vous avez rédigé, Pourquoi notre mémoire est-elle si fragile, aux éditions Le Pommier, et qui est également en partenariat avec la Cité des Sciences. Et je rappelle qu'avec votre confrère et collègue, Béatrice Desgranges, vous avez reçu le prix de la Fondation Énergie 2007 pour votre dossier, donc pathologie de la mémoire. Merci beaucoup et puis on vous souhaite bien sûr de nouvelles découvertes à venir passionnantes. Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.